Driss Aliasami.
Merci Michel. Ce que je vais essayer de faire, c'est de suivre un peu. J'ai fait distribuer ce matin deux petits papiers qui parlent un peu de l'expérience marocaine de l'instant Sécurité et Réconciliation. Je ne sais pas si tout le monde les a eus. Mais je vais essayer surtout de suivre un peu l'appel qui nous a été fait ce matin et par Noël Mamère et par Louis Joannet. Noël Mamère parlait d'un long travail complexe et long. Parlant de la justice transitionnelle, et Louis Joannet concluant disait qu'il fallait essayer de faire un peu de créativité. Donc je vais essayer rapidement, aussi rapidement que possible, en m'excusant d'avance auprès des traducteurs, d'évoquer l'expérience marocaine en quelques mots, et puis essayer de réfléchir devant vous sur quatre thématiques qui me semblent un peu transversales aujourd'hui lorsqu'on évoque la question de la justice transitionnelle. Et une petite précision pour c'est donc bien évidemment c'est pas au titre de mon association qui est sur le programme que j'interviens, mais comme militant des droits de l'homme, je suis par ailleurs secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme. C'est un peu à partir de cette expérience personnelle, puisque j'ai fait partie de janvier 2004 à novembre 2005 de l'instance Équité et Réconciliation, qui était la Commission nationale pour la vérité au Maroc. Alors, en quelques mots, d'abord, première remarque s'agissant du Maroc, l'instance Équité et Réconciliation est intervenue après une autre expérience qui l'a précédée, de 1999 à 2003, qui s'appelait l'instance d'arbitrage indépendante, qui avait été mise en place, disons, du vivant de Hassan II, mais qui a été mise en œuvre par son successeur, donc l'actuel roi Mohamed VI. Cette instance d'arbitrage indépendante était chargée, suite à tout un processus de mobilisation de la société civile marocaine notamment, et des familles des victimes, d'indemniser uniquement les victimes des violations graves des droits de l'homme. Et en fait, et cette instance a indemnisé un peu plus de 4000 personnes victimes de la disparition forcée et de la détention arbitraire. La mise en place de cette instance d'arbitrage indépendante n'a pas, disons, mis fin au processus, et la société civile marocaine a continué, et les familles des victimes, à se battre pour une commission nationale pour la vérité et la justice, notamment en mettant sur pied un forum marocain pour la vérité et la justice. Et suite à tout un processus qu'on ne peut pas résumer maintenant, il y a eu donc l'établissement de cette instance en janvier 2004, qui avait, disons, trois grands objectifs dans son mandat. Établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme de 1956, date de l'indépendance du Maroc, à 1999, qui était le début du travail de l'ancienne commission d'arbitrage. Établir les responsabilités institutionnelles et pas individuelles. Il était donc pas du tout dans son mandat de désigner nommément les responsables présumés de violations graves des droits de l'homme, et essayer de décrire les contextes, d'expliquer les contextes qui ont amené à ces violations. Deuxièmement, bien évidemment, de préconiser un programme de réparation des victimes. Et enfin, de prendre toute mesure et de recommander toute mesure pour la préservation de la mémoire, je cite les statuts, et des recommandations pour garantir la non-répétition des dites violations. Cette commission a travaillé, disons, deux années. Son mandat était d'un an qui a été prolongé. Elle a organisé, notamment suite aux expériences péruviennes et sud-africaines, des auditions publiques des victimes. Et elle a enfin écrit un rapport public, qui a été un rapport final qui a été rendu public. Alors, je passe très rapidement sur les résultats de cette commission, mais simplement pour dire qu'elle a permis d'éclaircir la situation de 742 cas de disparition forcée, et à la fin de son mandat, 66 cas restaient non éclaircis, et ils sont en grande partie non éclaircis à ce jour, même s'il y a quelques évolutions, mais surtout que, contrairement un peu à ce que, disons, le débat social dans la société marocaine, qui estimait que la disparition forcée avait été, disons, la violation grave la principale, le travail de cette instance a notamment démontré que la détention arbitraire, l'usage systématique de la torture, l'organisation de procès inéquitables, et enfin l'usage disproportionné des forces de la force publique durant les émeutes que le Maroc a connues, étaient des violations premières constatées durant cette période. dans les recommandations, il y a plusieurs, enfin, il y a plusieurs pages de recommandations, notamment les indemnisations aux individus victimes plus leur prise en charge sanitaire par l'État. Ce processus-là est quasiment achevé aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Deuxièmement, un programme de réparation communautaire qui a commencé à être mis en œuvre il y a quelques mois. Et parmi les recommandations, il y a l'inscription de la primauté du droit international des droits de l'homme dans le droit marocain, plusieurs mesures pour la mise sur pied d'une stratégie nationale intégrée de lutte contre l'impunité, et enfin, entre autres, plusieurs recommandations concernant ce qu'on a appelé la gouvernance sécuritaire, c'est-à-dire la réforme des services de sécurité, plus toute une série de recommandations qui ne sont pas encore mises en œuvre à l'heure qu'il est sur la réforme de la justice. Alors, moi, je vais essayer, dans les 10 minutes qui restent, d'essayer de réfléchir un peu sur au moins 4 problématiques qui me semblent traverser nos débats et traverser de manière générale le débat sur ce qu'il est convenu d'appeler la justice transitionnelle. Alors, on a tout de même affaire, et à mon avis nos débats depuis ce matin le démontrent, affaire à des difficultés de dénomination et de définition. Et c'est pour ça que je vais essayer devant vous, je vais risquer devant vous la définition que je vais vous donner, qui est, j'entends par justice transitionnelle, une des modalités, j'ai dit bien une des modalités, de gestion de la transition politique, c'est-à-dire le passage d'une situation politique de violation grave des droits de l'homme à une nouvelle situation politique relativement plus respectueuse des droits de l'homme. Et ce processus est fondamentalement un processus politique, où le judiciaire peut être et doit être, selon certains, on l'a entendu plusieurs fois aujourd'hui, doit être une condition essentielle et fondamentale, mais de mon point de vue, pas la seule. Et c'est pour ça que je vais m'intéresser à l'autre dimension, même si je veux revenir à la justice pénale. Donc, parce que le fait est qu'on sait ce que c'est une justice pénale nationale, on sait avec l'exemple européen et l'exemple latino-américain ce que c'est une justice pénale régionale, on sait ce que c'est une justice pénale internationale depuis quelques années, mais il n'y a pas un référentiel juridique unique concernant les commissions de la vérité. Louis Joannet l'a rappelé ce matin, il y a des expériences politiques, et c'est sur cette dimension politique que je voudrais parler. Alors, si la justice transitionnelle et cette gestion de cette transition, c'est-à-dire ce passage d'une situation politique X caractérisée par des violations graves des droits de l'homme à une situation nouvelle, politique, relativement plus respectueuse des droits de l'homme, il faut bien qu'on parle chaque fois et qu'on définisse avec précision, sinon à mon avis on installe la confusion entre nous, dans le débat public, de quelle violation on parle. Je veux dire, génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, disparition forcée. Je veux dire, la situation selon les pays et selon l'ampleur des violations n'est pas la même et ne peut pas, demander la même réponse politique et parfois judiciaire. Et surtout aussi, deuxième question essentielle, me semble-t-il, est-ce que le processus de violation est encore à l'œuvre ou pas? Je veux dire, lorsqu'on est encore dans une situation de conflit fondamentale marquée par, une guerre civile, un conflit armé entre des groupes d'opposition armée et l'État, avec tout ce qui... Par exemple, l'exemple colombien, mais il n'y a pas que l'exemple colombien. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler de justice transitionnelle dans ce cas-là, c'est-à-dire de commission pour la vérité. Je veux dire, je crois que là, on a affaire... Alors, dans ce processus, les victimes sont... un des protagonistes, je veux dire, dans un mécanisme, disons, de justice transitionnelle. Les victimes sont d'évidence un des protagonistes, la figure centrale, mais là non plus, elle n'est pas unique dans les sociétés. Je veux dire, lorsqu'on voit ce qui est à l'œuvre. C'est-à-dire d'où, et cela soulève toute une série d'autres enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, un des enjeux, c'est de contribuer à leur auto-organisation. L'auto-organisation des victimes n'est pas donnée, n'est pas une donnée qui va de soi et qui est facile. À travers l'exemple, on a entendu ce matin Nassera Dutour sur l'Algérie. Nassera peut témoigner, mais aussi on peut parler de ce qui se passe, en tout cas pour la région que je connais le mieux, au Bahreïn en ce moment, en Turquie, au Liban, en Syrie. Ce processus d'auto-organisation des victimes est un processus lent auquel, à mon avis, il faut prêter attention et auquel les acteurs politiques devraient prêter attention. Deuxième enjeu, c'est qu'il faut d'évidence garantir la délibération démocratique entre victimes et entre groupes de victimes. Parce que, il peut y avoir dans des sociétés, dans des processus, là aussi je fais référence à l'exemple algérien, mais pas uniquement, il peut y avoir des victimes, par exemple on l'a vu en Algérie, de l'État, il peut y avoir des victimes des groupes terroristes. Et leur alliance pour demander la vérité et la justice n'est pas évidente. Elle s'organise, elle se prépare. Et enfin, il faut que les victimes, et aider les victimes, à bâtir de larges alliances avec d'autres secteurs de la société. Sont par exemple des alliances avec des acteurs politiques, des intellectuels, des médias, des juristes, etc., toute une série d'autres forces sociales, les victimes face aux violateurs, qu'ils soient État ou groupes armés, ne peuvent ne pas peser, même si leur nombre est immense. Il peut s'agir de millions de victimes. Et dans ce cas-là, auto-organisation, capacité de délibération et capacité d'alliance me semblent des problématiques fondamentales. Deuxième série d'interrogations, là aussi à voix haute un peu, à partir là aussi de l'expérience marocaine, de ce qu'on peut constater, ce rapport amnistie-réconciliation. Bon, dans l'exemple marocain, il n'y a pas eu de vote de loi d'amnistie. Donc à la limite, on peut dire, je ne suis pas concerné. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi d'amnistie. Ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui et à l'avenir, le recours à la justice pénale reste ouvert pour les victimes. Ceci étant dit, moi j'aimerais là aussi un peu qu'on se complique la réflexion entre nous. Si le droit de chaque victime individuellement à demander réparation par la justice pénale est imprescriptible et non négociable, je ne crois pas qu'il y ait de point de vue unanime des victimes. C'est-à-dire que c'est un peu ce que l'exemple marocain a montré, qu'une partie des victimes, moi je pense majoritairement, accepte d'une certaine manière de ne pas, assez consciemment, de ne pas recourir à la justice pénale, parce que la transaction politique qui est promise ou qui est en perspective à la place de cette justice leur semble plus prometteuse. Et cette question fait d'ailleurs fait problème. Elle fait débat entre, par exemple, les ligues de membres de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Elle a fait débat, je le sais, dans plusieurs commissions de la vérité entre juristes et, disons, les gens qui ont plus une approche en sciences humaines, d'histoire, de sociologie. Et je sais qu'elle fait débat publiquement, c'est pour ça que je la pose. Et je pense que c'est pour ça que je soutiens très très fortement, d'ailleurs, la proposition faite par Noël, ma mère ce matin, d'avoir un centre européen ou français d'études et de réflexion et d'examen sur la justice transitionnelle. Ce qui veut dire que, pourquoi je dis ça aussi, c'est parce qu'à notre avis, ça doit nous amener à réfléchir sur qu'est-ce qu'on entend par réconciliation. Et de ce point de vue, je sais qu'il y a une icône dans le monde de la justice transitionnelle qui s'appelle la TFC sud-africaine. On ne touche pas à l'expérience sud-africaine de la Commission Vérité. Et à mon avis, il y a un biais qui a été introduit dans notre réflexion par la TLC sud-africaine, qui est celui de penser que la réconciliation est un processus interindividuel. Le bourreau, l'ex-bourreau, comme individu, qui venait devant la commission d'amnistie, qui avouait, qui demandait pardon, et en face de cela, il n'y avait pas de poursuite, disons en échange. Or, moi, je pense sérieusement, et ça, tout à l'heure, Paz l'a dit avec force, et je crois que c'est une vérité, je veux dire, y compris personnellement, je pense que dans la salle, il y a plein de gens, je me compte là-dedans, qui ont souffert eux-mêmes des violations graves des droits de l'homme. Il y a des choses qui sont impardonnables. Il y a des douleurs et des souffrances qui, même de mon point de vue, avec un procès pénal, ne s'effacent pas. Il y a d'autant plus que parfois, il peut ne pas y avoir de violateurs présumés. Je pourrais en donner des dizaines d'exemples concernant le Maroc et ailleurs, c'est-à-dire qu'il a disparu, il est mort par exemple, et donc on ne peut même pas le traîner devant la justice. Et de mon point de vue donc, il y a des choses auxquelles il faut donner, des souffrances auxquelles il faut donner réparation autrement, mais la réconciliation n'est pas un processus individuel, c'est un processus sociopolitique qui signifie au moins deux choses. La première, c'est la définition de ce qui doit être banni dans les rapports entre l'État et les citoyens. Il y a un certain nombre de pratiques, de lois, qui doivent être bannis définitivement. Par exemple, la torture, l'atteinte à la dignité de la personne, la disparition forcée, etc. Le droit, bien sûr, le respect du droit à la vie, c'est un. Et deux, la réconciliation, ça ne veut pas dire le consensus. Moi, j'appelle ça, je dis la réconciliation, c'est la gestion pacifique du droit au dissensus, à la différence des points de vue. C'est-à-dire la réconciliation, surtout dans les sociétés du Sud, parce qu'en Europe, à mon avis, on a trop oublié ça, parce que, grosso modo, on est dans un système démocratique depuis assez longtemps, avec ses imperfections, mais on est dans une gestion pacifique des conflits et des intérêts. Or, ce dont meurent les sociétés du Sud, c'est l'absence de politique. Ça veut dire l'absence d'espace politique pour débattre, pour être en désaccord. Et c'est de ça que les sociétés ont besoin. Ça veut dire une restauration de l'espace du politique, une restauration de la capacité de la société de délibérer pacifiquement de ce qui l'oppose. Je suis islamiste et je me présente aux élections et sous réserve du respect d'un certain nombre de choses, eh ben je m'affronte aux laïcs, je m'affronte aux social-libérales, etc., etc. Ce sont des choses... Ou alors c'est la guerre civile. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'idée, c'est pas de... Je veux dire, c'est pour ça que moi, le terme de pardon, je l'utilise jamais. Je pense qu'il y a des choses, comme je disais tout à l'heure, impardonnables. Ce qui est fondamental en jeu, c'est cette restauration du politique. Deux séries de remarques, je ne sais pas combien, 5 minutes, mon cher président et ami. Deux séries de remarques, là aussi, sur... Bah, très ami. Depuis ce couple mémoire, vérité, histoire. Enfin, c'est trinôme. Là aussi, un peu très rapidement, parce que le premier point, c'est que d'évidence, il faut se rappeler. Il faut préserver la mémoire des victimes. Il faut lui donner visibilité dans la société. Il faut qu'elle soit installée dans la société. Mais l'autre enjeu, c'est qu'il faut, se rappeler, mais il faut comprendre ce qui s'est passé. Et de ce point de vue, je suis désolé, parce que là aussi j'ai entendu des choses avec lesquelles... Bon, ça, le problème n'est pas de remplacer un récit qui était un récit unilatéral et manichéen, celui de l'État, celui du violateur, par le récit qui serait a priori la vérité historique de la victime. Il faut se souvenir, il faut se rappeler, mais il faut faire cet effort d'intelligibilité du passé qui ne peut pas être fait par les victimes toutes seules. De mon point de vue, l'enjeu, c'est de mettre en œuvre les outils de l'écriture pluraliste et sans cesse renouvelée de l'histoire. Je dis bien des outils pour l'écriture pluraliste, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur un événement politique qui aboutit à des violations graves des droits de l'homme, des lectures plus différentes. Mais il faut qu'on puisse... C'est pour ça que, par exemple, nous, on s'est rendu compte au Maroc qu'on n'avait pas une loi sur les archives. La loi marocaine sur les archives publiques datait de 1926. 1926, c'est-à-dire c'est l'IOT qui nous l'avait fait. Et en 2004, 2005, 2006, jusqu'en juillet 2007, c'est-à-dire le juillet dernier, eh ben, cette loi, c'était elle qui gouvernait les archives au Maroc. Donc c'est pour ça qu'on a donné une loi sur les archives. C'est pour ça que, par exemple, on travaille en ce moment pour la mise sur pied d'un institut marocain d'histoire du temps présent, etc., etc. Dernier point là-dessus, mais en même temps, lorsque je dis ça, en même temps, on est en train d'essayer, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, mais on est en train d'essayer, de prendre quelques centres qui étaient des centres de disparition forcée pour les transformer en lieux communautaires, disons, de développement et de mémoire, avec localement, c'est-à-dire de prendre le centre qui était l'emblème de la violation des droits de l'homme, qui était là l'emblème de la peur, de la terreur exercée sur la population localement et nationalement, pour essayer de l'ouvrir et de le transformer avec les associations de la région en un centre de développement communautaire qui a une dimension mémoire. Mais c'est un processus très compliqué. Dernier point, la mise en œuvre des recommandations. D'évidence qu'une des problématiques les plus graves, enfin en tout cas là où beaucoup de commissions en vérité ont eu des problèmes, c'est cette question de mise en œuvre des recommandations. Parce que, je veux dire, non seulement il n'y a pas justice pénale, mais assez souvent, il n'y a pas mise en œuvre des recommandations. Et là, l'étude des expériences internationales des sévères, des commissions de vérité, nous amène, disons, à se dire que, et c'est pour ça qu'il y a un ami du Pérou qui s'appelle Pancho, qui était vice-président de la FIDH, avec qui on discutait la semaine dernière, et qui disait la chose suivante, il disait la sévère, c'est le début de la vérité. Enfin, la fin du mandat d'une commission de vérité, c'est le début de la vérité et c'est le début, en fait, de la transition, d'une certaine manière. Ça veut dire que l'idée, le défi, c'est qu'on a une feuille de route de réforme et encore faut-il la mettre en œuvre. Un exemple, parce que c'est un exemple très concret aujourd'hui au Maroc. Nous, on fait une recommandation disant il faut que le Conseil supérieur de la magistrature, un, ne soit plus présidé par le... Soit le statut, son statut doit être de valeur organique, c'est-à-dire par une loi à valeur constitutionnelle. Deux, il ne doit être plus présidé par le ministre de la Justice. Il doit avoir... sa composition doit être élargie à d'autres que les magistrats. Et enfin, il doit avoir des moyens administratifs et techniques indépendants du ministère de la Justice. Je veux dire, ça semble simple et... Mais, par exemple, la mise en œuvre des recommandations demande au minimum 4 conditions, et d'après les expériences internationales. C'est d'une part qu'il faut bâtir des alliances, là aussi, renouveler des alliances politiques pour la mise en œuvre. Deux, il faut essayer de donner à toutes les recommandations un contenu aussi concret que possible. Trois, il faut repérer les acteurs susceptibles de mettre en œuvre les dites recommandations aussi vite que possible et les associer. On ne met pas en place un programme d'éducation aux droits de l'homme comme on réforme la justice, comme on réforme la police. Ça demande des compétences. Et enfin, il faut se poser la question des ressources, y compris financières, d'où la responsabilité, à mon avis, aussi de l'Europe. C'est-à-dire que réformer la justice dans un pays comme le Maroc, c'est des millions et des millions. Je parlais tout à l'heure simplement, par exemple, de la loi sur les archives. On a fait voter la loi sur les archives en juillet dernier. Moi, comme je travaille un peu là-dessus, j'ai fait une petite évaluation comme ça, en lance-pierre, de ce que coûterait le programme immobilier. Je dis bien le programme immobilier pour abriter les archives marocaines. C'est 80 millions d'euros. Ils sont nulle part dans les...
Si on peut payer.
Non, le programme de réparation communautaire est mis en place avec l'aide de la Commission et l'Institut marocain d'histoire du temps présent. On est en train d'essayer de le mettre en place avec un peu d'argent de la Commission. Mais je dis ça, mais c'est 4 millions, donc c'est rien par rapport aux besoins. Mais les ressources, par exemple, financières, c'est importantes, mais aussi les ressources humaines. C'est-à-dire que le savoir-faire...